إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs de la radio Sunna, on commence aujourd'hui, inshallah ta'ala, en ce deuxième jour du mois de Ramadan 1440, la lecture d'une épître de l'éminent cheikh et du grand savant Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Celle-ci est intitulée Fusulun fi siyami wa tarawih wa zakah, que l'on pourrait traduire par article sur le jeûne, le tarawih, la prière de tarawih, et la zakat, l'aumône légale. Le cheikh rahimahullah ta'ala, après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala et prié sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans l'introduction de cette épître: ceci dit, à l'occasion de l'arrivée du mois béni de Ramadan, nous présentons à nos frères musulmans les articles suivants, demandant à Allah que notre œuvre soit exclusivement vouée à lui, conforme à sa législation et profitable pour sa création. Il est certes bon et généreux. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, il a énuméré les 8 articles qu'il a abordés dans cette épître et que nous allons aborder un par un dans chacune de nos assises, incha'Allah ta'ala. Le premier article, qui est celui que l'on va traiter dans l'assise de ce soir, porte sur le jugement du jeûne. Le deuxième, sur les sagesses et les bénéfices du jeûne. Le troisième, sur le jugement du jeûne, du malade et du voyageur. Le quatrième, sur les annulatifs du jeûne. Le cinquième, sur la prière de Tarawih. Le sixième, sur la zakat et ses bénéfices. Le septième, sur les ayants droit à la zakat. Et le huitième, sur l'aumône de la rupture, zakat al-fitr. Donc le premier article, qui est celui que l'on va lire dans l'assise de ce soir, incha'Allah ta'ala, il porte sur le jugement du jeûne. Le cheikh, il dit, rahimahullah, le jeûne de Ramadan est une obligation confirmée par le livre d'Allah, la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et l'unanimité des musulmans. Ensuite, le cheikh, rahimahullah, il a mentionné les preuves à ce sujet. Il a commencé par mentionner la preuve du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est sa parole dans surat al-Baqarah, des versets 183 à 185, lorsqu'il dit « Ya ayyuha alladhina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba ala alladhina min qabrikum, la'allakum tattaqoon. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar, wa ala alladhina yutiquunahu fidyatun ta'amu miskin, faman tatawwa'a khayran fahuwa khayrun lah. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. Ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala informe ses serviteurs qu'il leur a fait grâce en leur prescrivant le jeûne de la même manière qu'il l'a prescrit aux communautés qui nous ont précédés. Et il y a en cela un encouragement pour nous, un encouragement pour la communauté de l'islam. Car ceci signifie qu'il convient aux musulmans de concurrencer les communautés précédentes dans la perfection et la concrétisation des œuvres pieuses et de nous empresser dans cela. De même que ceci nous rappelle que la prescription du jeûne, ce n'est pas une prescription lourde et pesante pour le serviteur. Et ce n'est pas une prescription qui est imposée seulement à la communauté de l'islam. Mais elle a aussi été prescrite aux communautés avant nous, parmi celles qui nous ont précédés. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné la sagesse de la prescription du jeûne. Et il a dit subhanahu wa ta'ala, selon la traduction des sens rapprochés, « Ainsi atteindrez-vous la piété. » En effet, le jeûne, c'est une des plus grandes causes permettant au serviteur d'atteindre la piété. Et ce, car le jeûneur, il se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala, en accomplissant ses ordres et en délaissant ses interdits. Et ceci est la réalité de la taqwa, la réalité de la crainte pieuse que l'on doit vouloir à Allah subhanahu wa ta'ala, qui consiste à se soumettre à ses ordres et à délaisser ses interdits. Et on reviendra sur ce point, inshallah ta'ala, lors de notre assise de demain, lorsque nous verrons les sagesses et les bénéfices du jeûne, bi'idhnillahi ta'ala. Il dit ensuite, subhanahu wa ta'ala, selon la traduction des sens rapprochés, c'est un nombre déterminé de jours, c'est-à-dire le mois de Ramadan, le jeûne qui nous est prescrit. Donc après avoir mentionné l'obligation du jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle qu'il n'est prescrit que durant un nombre de jours déterminé, c'est-à-dire un petit nombre de jours, seulement durant un mois. C'est donc une chose simple et il n'y a pas en cela de difficulté pour le serviteur. Ensuite, il dit, subhanahu wa ta'ala, selon la traduction des sens rapprochés, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours, étant donné que le jeûne est généralement difficile pour le malade ou le voyageur. Allah subhanahu wa ta'ala leur a permis la rupture, tout en ordonnant de rattraper ces jours une fois guéri de la maladie ou rentré de voyage. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter, c'est-à-dire le jeûne, qu'avec grande difficulté, il y a une compensation, c'est-à-dire une compensation pour chaque jour non jeûné, qui consiste à quoi ? Nourrir un pauvre. Et ceci était au début de la prescription du jeûne. Lorsqu'il n'était pas habitué au jeûne, de par sa sagesse, Allah subhanahu wa ta'ala avait laissé le choix à celui pour qui le jeûne était difficile entre le fait de jeûner, et ceci était ce qu'il y avait de mieux, ou de nourrir un pauvre. Donc le fait de jeûner, il était meilleur pour eux, mais ils avaient le choix entre jeûner ou de nourrir un pauvre. C'est pour cela qu'il dit subhanahu wa ta'ala, et si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est pour lui, mais il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez. Ceci fait donc partie des étapes de la prescription du jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala a d'abord laissé le choix à ses serviteurs entre le jeûne et le fait de nourrir un pauvre. Puis après le jeûne, il est devenu obligatoire. Cependant, la compensation, qui consiste à nourrir un pauvre, elle demeura légiférée pour celui qui ne peut pas jeûner de manière définitive, comme la personne âgée pour qui le jeûne est difficile, ou la personne atteinte d'une maladie incurable dont on n'espère pas la guérison. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Ensuite, il dit subhanahu wa ta'ala, toujours selon la traduction des sens rapprochés, « Le mois de Ramadan est celui au cours duquel le Coran a été descendu, comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. » Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous expose que le mois dont le jeûne est prescrit est le mois du Ramadan, le mois durant lequel le Coran a été révélé. C'est durant ce mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre son noble livre. Ce livre qui est un guide pour l'humanité et qui est le discernement entre le faux et la vérité. Ce mois est donc un moment propice à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, « Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. » Ce verset il vient donc abroger le précédent et rend le jeûne obligatoire pour celui qui en a les capacités, qui est résident et en bonne santé. Et afin que l'on ne pense pas que la permission pour le malade et le voyageur a aussi été abrogée, Allah subhanahu wa ta'ala l'a répété dans ce verset lorsqu'il a dit, « Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité et ne veut pas la difficulté pour vous. » C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut vous faciliter les voies menant à son agrément. Sa législation, c'est donc une législation facilitée. Elle ne comporte aucune difficulté. Et si une difficulté est rencontrée sur le chemin de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré une facilité comme c'est le cas pour le malade ou le voyageur qui ont la permission de rompre le jeûne en cas de difficulté. Ensuite, il dit subhanahu wa ta'ala, afin que vous en complétiez le nombre, c'est-à-dire qu'il est obligatoire pour le musulman de jeûner le mois en entier. Même s'il est malade ou en voyage et qu'il est amené à rompre certains jours durant le mois de Ramadan, il lui incombe de jeûner un nombre égal de jours afin d'en compléter le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et que vous soyez reconnaissant. Ceci est donc la preuve démontrant l'obligation du jeûne du mois de Ramadan tirée du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh, rahimahullah, il a mentionné la preuve tirée de la sunna. Et il a dit, rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam est fondé sur cinq. L'attestation qu'il n'y a de Dieu en droit d'être adoré qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. L'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le pèlerinage de la maison et le jeûne de Ramadan. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allahu ta'ala. Et on trouve dans une version rapportée par Muslim, le jeûne de Ramadan et le pèlerinage de la maison. C'est-à-dire qu'il a fait précéder le jeûne au pèlerinage. Ceci est donc la preuve tirée de la sunna que le jeûne du mois de Ramadan est une obligation pour les musulmans et qu'il fait même partie des piliers de l'islam. D'ailleurs, lorsque Jibril alayhi salam est venu au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sous la forme d'un homme afin de le questionner au sujet de l'islam, au sujet de la foi et au sujet de la bienfaisance. Lorsqu'il l'a interrogé au sujet de l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, l'islam, c'est que tu attestes qu'il n'y a de Dieu en droit d'être adoré qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, que tu accomplisses la prière, que tu t'acquittes de la zakat, que tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu fasses le pèlerinage de la maison si tu en as les capacités. On voit donc qu'il a mentionné le jeûne parmi les piliers essentiels de l'islam. Et dans le hadith de Talha, Ibn Ubaydillah, radiyallahu ta'ala anhu, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allahu ta'ala, il rapporte qu'un bédouin est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il l'a questionné en lui disant, ô messager d'Allah, informe-moi de ce qu'Allah a rendu obligatoire pour moi comme jeûne. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, le mois de Ramadan. Il a ensuite dit, c'est-à-dire le bédouin, dois-je accomplir autre que celui-ci? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, non, sauf si tu le fais volontairement. On voit donc à travers ces hadiths que le jeûne du mois de Ramadan est une obligation pour les musulmans. Et il dit, rahimahullah, et les musulmans sont unanimes sur l'obligation du jeûne de Ramadan. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de divergence à ce sujet. Et ceci fait partie des choses nécessairement connues de la religion. Il dit, rahimahullah, par conséquent, quiconque renie l'obligation du jeûne de Ramadan est alors un apostat mécréant. Pourquoi? Car il a renié une chose nécessairement connue de la religion, une chose qui est mentionnée dans le livre d'Allah, une chose qui est prouvée par la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui est reconnue de tous. Donc le fait qu'il renie cela, c'est comme s'il traitait de mensonge le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, rahimahullah, c'est alors un apostat mécréant à qui on demande de se repentir. C'est-à-dire de revenir sur ses paroles, de revenir sur cette croyance et d'entrer en islam en reconnaissant l'obligation du jeûne du mois de Ramadan. Il dit, rahimahullah, s'il se repent et reconnaît son obligation, alors c'est accepté de lui. C'est-à-dire qu'on le laisse, qu'il est rentré en islam et qu'il est de nouveau du nombre des musulmans. Sinon, s'il refuse de se repentir et de reconnaître l'obligation, il est condamné à la peine capitale en tant que mécréant. Wal'iyadu billah. Et ceci, bien sûr, est accompli par le gouverneur des musulmans et ne revient pas aux individus de la société. Ensuite, il dit, rahimahullah, après avoir mentionné les preuves du Coran et de la sunna et de l'unanimité concernant l'obligation du jeûne, il dit qu'il fut prescrit en l'an 2 de l'Hégire, c'est-à-dire la deuxième année après la hijra du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, il est resté pendant 10 années à Mecca à appeler les gens au tawhid, à appeler les gens à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, adorer Allah et ne lui donner aucun associé. Ceci était le message essentiel du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant ses 10 premières années de prêche à Mecca. Puis ensuite, la prière lui fut prescrite. La prière qui est le deuxième et le plus important pilier de l'islam après le tawhid. Elle lui fut prescrite et il pria à Mecca durant 3 années. Après cela, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné d'émigrer vers Médine, c'est-à-dire après 13 années à la Mecque. Donc, après cet égir, durant la deuxième année, le jeûne fut prescrit aux musulmans. Il dit, rahimahullah, Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûna donc 9 mois de Ramadan, c'est-à-dire durant sa vie, car après il est mort sallallahu alayhi wa sallam. Et le jeûne est une obligation pour tout musulman, pubère et doué de raison. Le cheikh rahimahullah, il nous expose maintenant les conditions pour que le jeûne soit obligatoire pour la personne. Il les a résumées à 3, en disant « pour tout musulman ». Donc la première condition rendant le jeûne obligatoire, c'est l'islam. Pubère, la deuxième est donc la puberté, et doué de raison. La troisième, qui est le fait d'avoir sa raison saine. Donc ces 3 conditions sont les conditions rendant le jeûne obligatoire. L'islam, la puberté et la raison. Et certains savants mentionnent en plus de cela la santé, la résidence et l'absence d'empêchement, c'est-à-dire l'absence de menstrues et de lochi pour les femmes. Ensuite, le shir, rahimahullah ta'ala, il dit « Le jeûne n'est donc pas obligatoire pour le mécréant et n'est pas accepté de lui jusqu'à ce qu'il entre en islam. » En effet, le jeûne est une obligation pour les gens de l'islam, pour les musulmans. Et le mécréant, quelles que soient les œuvres qu'il accomplit, ses œuvres sont vaines tant qu'il ne croit pas au message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en vouant un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et en mécroyant en l'adoration à tout autre que lui. Donc, pour que les œuvres de la personne soient acceptées, il est indispensable qu'il entre en islam. Tant qu'il n'entre pas en islam, ses œuvres sont rejetées. Même s'il jeûne, le jeûne n'est pas accepté de lui. Cependant, s'il entre en islam, il ne lui est pas demandé de rattraper les jours manqués avant son islam, les Ramadan qu'il n'a pas jeûné. Si une personne entre en islam à l'âge de 40 ans et qu'il s'est donc passé de nombreuses années sans qu'elle ne jeûne le mois de Ramadan, il ne lui est pas demandé de rattraper les Ramadan qu'elle a manqué avant d'entrer en islam. De la même manière, si une personne entre en islam durant un jour de Ramadan, il ne lui est pas demandé de rattraper les jours passés du mois de Ramadan avant son entrée en islam. Ensuite, il dit, rahimahullah, de même que le jeûne n'est pas obligatoire pour l'enfant jusqu'à ce qu'il soit pubère. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, la plume est levée pour 3. Et il a mentionné parmi eux l'enfant jusqu'à ce qu'il soit pubère. Et ce hadith, il est rapporté par les imams Ahmed et Abu Daoud et authentifié par Al-Albani, rahimahumullah ta'ala. Donc avant la puberté, le jeûne, il n'est pas obligatoire pour l'enfant. Et une fois qu'il devient pubère, le jeûne devient obligatoire pour lui. Et la question qu'il se pose donc, c'est quand l'enfant devient-il pubère? Et le shir, rahimahullah, il y a répondu par la suite en disant, il devient pubère à l'âge de 15 ans révolu. Lorsque l'enfant atteint l'âge de 15 ans, il devient pubère inévitablement. Mais la puberté peut avoir lieu avant les 15 ans, par un des autres signes que le shir, rahimahullah ta'ala, a mentionné. Il dit, rahimahullah, à l'apparition de la pilosité sur son pubis. Si la pilosité apparaît sur cette partie du corps de l'enfant, alors l'enfant devient pubère même s'il n'a pas 15 ans. Et il est important pour les parents d'enseigner cela à leurs enfants, afin d'avoir connaissance du moment où l'enfant devient pubère. Car une fois pubère, il lui incombe ce qui incombe aux adultes. Il devient responsable de ses actes. La prière devient obligatoire pour lui, le jeûne devient obligatoire pour lui, ainsi que l'ensemble des adorations qui sont obligatoires pour les adultes. C'est donc très important pour les parents d'apprendre aux enfants les signes de la puberté et de ne pas penser que cela ne peut pas arriver avant l'âge de 15 ans. Ensuite, il dit, rahimahullah, ou à la sortie du liquide séminal suite à un rêve ou autre. Ceci est le troisième des signes de la puberté. La sortie du liquide séminal des parties intimes de l'enfant suite à un rêve ou autre chose. Et ceci également fait partie des choses qui doivent être enseignées par les parents à leurs enfants, afin que l'enfant ait connaissance de ces choses et des jugements liés à cela. Il dit ensuite, rahimahullah, s'ajoute à cela l'apparition des menstrues pour les filles. Donc les signes de la puberté, ils sont au nombre de 4. 3 qui concernent les garçons ainsi que les filles, et un quatrième qui est spécifique aux filles. Donc le premier, c'est lorsque l'enfant atteint l'âge de 15 ans. Il devient automatiquement pubère. Le deuxième, c'est l'apparition de la pilosité sur le pubis, aussi bien pour les garçons ou les filles. Le troisième, la sortie du liquide séminal suite à un rêve ou autre, qui concerne aussi bien les garçons que les filles. Et le quatrième, qui est spécifique aux filles, qui est l'apparition du sang des menstrues. Le shir, il dit, rahimahullah, dès que l'une de ces choses se produit, l'une seule, dès que l'une de ces choses se produit chez l'enfant, Alors il devient certes pubère. Par une seule de ces choses, ce n'est pas une condition qu'elles soient toutes réunies. Ce n'est pas une condition que l'enfant atteigne l'âge de 15 ans. Il peut être pubère à 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, ou plus jusqu'à ses 15 ans. Donc ceci est très important et les parents doivent accorder une grande attention à cela et ne pas être négligents. Car si tu négliges cela sur tes enfants et que tu ne leur enseignes pas les signes de la puberté, il se peut que ton enfant devienne pubère et qu'il néglige ses obligations vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est toi qui en es responsable. Devant Allah subhanahu wa ta'ala, tu seras considéré comme négligent, car tu auras négligé à tes obligations vis-à-vis de ton enfant en ne lui enseignant pas les signes par lesquels il devient pubère et par lesquels il devient tel un adulte responsable de ses actes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc une fois pubère, le jeûne ainsi que les autres adorations deviennent obligatoires pour l'enfant comme pour l'adulte. Il dit rahimahullah, cependant, on enjoint le jeûne à l'enfant s'il le supporte sans que cela lui nuise afin qu'il s'y habitue et s'y accoutume. Et ceci fait partie des habitudes des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils faisaient jeûner leurs enfants avant la puberté afin qu'ils s'y habituent. Et lorsque le jeûne était difficile pour l'enfant, ils le faisaient patienter avec des jeux ou autres. Car si tu n'habitues pas ton enfant au jeûne et que subitement il devient pubère et qu'il n'a jamais jeûné, il n'a jamais jeûné une journée complète du matin au soir, et il devient pubère à l'âge de 11 ans par exemple, ou 12 ans, et tu ne l'as pas habitué au jeûne pour Allah subhanahu wa ta'ala, ceci va être difficile pour lui au moment où cela devient obligatoire. C'est pour cela qu'il n'est nécessaire pour les parents d'habituer leurs enfants au jeûne dès qu'ils en ont les capacités, si cela ne leur nuit pas. Tu l'habitues au jeûne afin qu'il s'y habitue et s'y accoutume et que cela ne soit pas difficile pour lui lorsqu'il deviendra pubère et que le jeûne sera alors obligatoire pour lui. Ensuite, il dit, rahimahullah, enfin, le jeûne n'est pas obligatoire pour celui qui a perdu la raison, pour cause de folie, déficience mentale ou autre chose semblable. Et ce, d'après la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith que l'on vient de citer, la plume est levée pour trois, et il a mentionné parmi eux le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. La personne qui a perdu la raison, à cause de la folie, à cause d'une déficience mentale ou autre chose semblable, la plume elle est levée pour elle. Rien ne lui incombe. Donc le jeûne, il n'est pas obligatoire, ni même la compensation. Il dit par conséquent, si un vieil homme divague et n'a plus la faculté de discernement, il ne lui incombe pas de jeûner ni de compenser. Certaines personnes, arrivées à un certain âge, à cause de la vieillesse, elles commencent à divaguer et à perdre la raison. Elles n'ont plus la faculté de discernement. Et elles redeviennent comme à leur premier âge, comme un enfant avant l'âge de discernement. Donc si la personne âgée est dans cet état, il ne lui incombe pas de jeûner. Le jeûne n'est plus obligatoire pour elle. De même que la compensation n'est pas obligatoire, car la plume est levée. Elle n'a pas à compenser pour les jours de jeûne qui sont manqués. Contrairement à la personne âgée qui a toute sa raison, mais qui n'a pas les capacités physiques de jeûner, celle-ci devra, pour chaque jour non jeûné, compenser en nourrissant un pauvre. Et on verra cela, incha'Allah ta'ala, lors de notre troisième assise, lorsqu'on parlera du jugement du jeûne, du malade et du voyageur. Ceci était donc quelques questions liées au jugement du jeûne mentionnées par le cheikh, rahimahullah ta'ala, dans ce premier article. Nous verrons, incha'Allah ta'ala, dans l'assise de demain, les sagesses et les bénéfices du jeûne. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre, tout comme je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter durant ce mois la multiplication des œuvres pieuses, de jeûner durant ces jours, de prier durant ces nuits et de multiplier la lecture de son noble livre. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا